l'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Bonjour à tous, nous retrouvons Aymeric Bayle, président de l'association SOS Littoral Anglois, pour faire un état des lieux du littoral anglois. Alors au 19e siècle, on observe un changement de la dynamique sédimentaire sur Anglette. Pourquoi ? Mais avant, un petit point sur la barre de la Dour au nord d'Anglette. Pourquoi on appelle cet endroit la barre ?
Alors la barre de la Dour, c'est ce fameux banc de sable qui se trouve devant l'embouchure. C'est un banc de sable qui est en perpétuel mouvement, qui a des profondeurs toujours changeantes et qui est un véritable écueil pour la navigation quand les navires cherchent à rentrer dans le fleuve ou à en sortir, parce que de temps en temps, quand la mer est forte, les vagues viennent se briser dessus. Et du coup, il y a eu nombreux naufrages où les bateaux arrivaient, se présentaient bien, et puis surpris par des vagues, l'eau rentrait à bord, faisait chavirer le bateau parce qu'il partait en travers, cassait les gouvernails, le bateau des fois touchait, se renversait. Donc en fait, c'était un vrai danger. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu les pilotes de la Dour qui étaient là pour faire des signes, pour montrer au bateau quel était le meilleur passage quand ils approchaient. Alors, en 1896, la CCI de Bayonne, pour améliorer le trafic maritime et améliorer le tonnage des bateaux qui franchissent la barre, décide d'investir dans deux dragues, la Bayonne 1 et la Bayonne 2, pour aspirer ce banc, et faire en sorte que le chenal soit plus régulier et plus profond. Alors, ça marche, le tirant d'eau à l'embouchure est bien meilleur, mais il y a un problème, c'est que chaque année, les dragues retirent environ 700 000 m3 de sable. Alors, ça correspond à quoi, 700 000 m3? Eh bien, il faut se dire que c'est à peu près deux fois le volume de la tour Montparnasse. Donc, c'est énorme. Et ce sable, il est amené au large, où il est relargué, mais il est relargué dans des profondeurs de, on va dire, de 20 à 30 mètres. Et quand il est relargué, il ne reviendra plus jamais à la côte. Donc, tout ce sable qui est retiré du littoral est perdu. Et du coup, à partir de cette date, les ingénieurs des ponts et chaussées notent que les plages anglaises commencent à réguler de 1 mètre par an. À partir de la Première Guerre mondiale, le volume dragué diminue, parce que les dragués coûtent de l'argent, et avec la guerre, les crédits sont placés ailleurs. Et en plus, le trafic est moins important. Donc, le volume dragué est bien moins important, puisqu'il est divisé par deux, et ceci jusque dans les années 60. Mais il semblerait que le port de Bayonne, finalement, s'y accommode, parce qu'on ne note pas d'accident particulier par rapport à cette baisse du dragage.
Quel est le constat visuel du recul du trait de côte à ce moment-là ?
On va avoir au sud du littoral d'Anglette, à la petite chambre d'amour, un fait qui va marquer, le début de cette érosion, on va dire, qui va l'officialiser, qui a lieu le 9 janvier 1924. Bon, effectivement, c'est une tempête qui est marquante pour toute la France. Mais à Anglette, l'établissement de bain est sinistré. L'eau rentre dans le bâtiment, casse les cloisons. Il y a un quai devant l'établissement. Il est emporté et laisse une saignée de 10 mètres de haut dans le cordon du nerf. Autre cas que l'on remarque plus au nord, c'est à l'hippodrome. Pareil, au niveau de l'hippodrome, l'enclos, qui est l'endroit où les chevaux se reposent en attendant de passer à la course, est dévasté. L'océan, les vagues passent par-dessus le champ de course et viennent terminer dans les petits lacs d'Isadia. Et en passant, ravinent toute la piste qui est du coup tout à refaire. Donc avant, la mer se trouvait dans ces deux endroits bien, on va dire, à 50 mètres. Et suite à cette tempête, l'océan sort carrément et vient tout croquer. Et en fait, c'est le premier cas dans l'histoire qui fait date.
Alors, quel est le plan pour remédier justement à cette époque-là, à ce recul du trait de côte, et notamment observé à la chambre d'amour après la tempête du 9 janvier 1924?
Alors, pour le coup, les gens prennent ça comme un événement exceptionnel et ne se soucient pas trop ou très peu de l'impact que peut avoir le dragage. Il y a bien quelques voix de journalistes qui disent « mais tout le sable qu'on enlève à l'embouchure, tout le sable qu'on extrait depuis la plage, ça a forcément un impact sur l'évolution du trait de côte. En fait, il faudra attendre la fin des années 60 pour que là, il y ait vraiment une prise de conscience de l'impact des dragages. Pourquoi ? Parce que, en 1966, pour développer encore une nouvelle fois le port de commerce, l'État fait construire une grande digue, qui est la digue de Tarnos, qui fait 1100 mètres de long. Et cette digue vient comme un obstacle à la dérive littorale. Donc les plages anglaises ne sont plus alimentées naturellement par ce sable qui venait de la côte nord. Les plages anglaises ne sont plus alimentées par les sédiments qui venaient par le fleuve, parce qu'on drague le fleuve, et puis on a construit des barrages en amont, 192 quand même, et puis on drague les limineurs, donc le sable ne produit quasiment plus de sable. Donc le sable qui est pioché à l'embouchure, ce n'est que le sable d'Anglet qui vient couler. Et en fait, les ingénieurs se rendent compte que la digue a un effet pervers, c'est que à la fois elle arrache le sable des plages d'Anglet et uniquement des plages d'Anglet, mais en plus le chenal s'enlise deux fois plus vite qu'avant. Donc on est obligé maintenant de draguer deux fois plus. Et du coup, pour assurer l'avenue des cargos, les dragues se mettent à pomper au maximum. Et à la fin des années 60, c'est les murs qui tombent à la chambre d'amour, c'est des falaises, c'est une vraie catastrophe. Il y a des propriétaires privés qui perdent la moitié de leur terrain et on s'arrache les cheveux parce que c'est un véritable drame pour les habitants d'Angleterre qui voient leur plage défigurée par les intempéries.
Est-ce que c'est à ce moment-là que apparaissent les premiers ouvrages de protection, type épi, renforcement avec les blocs sur les digues pour les plages, pour finalement freiner ce recul?
Alors, effectivement, c'est dans les années 70 qu'on va voir apparaître les premières digues sur le littoral d'Anglette. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État, propriétaire du port de Bayonne, est attaqué par la société foncière immobilière d'Anglette parce qu'ils ont perdu énormément de terrain et ils disent que c'est à cause du dragage. Donc, il y a un procès qui est intenté contre l'État et le tribunal administratif de Pau donne raison aux propriétaires privés en les accusant d'être responsables à hauteur de 80% du recul de trait de côte. Donc suite à ça, l'État est obligé de réagir et demande à la DTTM maritime de prendre des mesures. Et du coup, ils font construire 6 digues sur Anglette, dont la première en 75, qui est la digue des Sables d'Or. Et puis après, en 76, c'est la digue du club qui va mettre un terme à la piscine qui se trouvait juste devant. Et puis va venir après digue Marina, digue Orser. Et la dernière sera en 78, la digue des Cavaliers. En même temps, les extractions littorales qui avaient encore lieu à l'embouchure de la Dour vont être interdites et l'État va mettre en place le clapage côtier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la drague ira chercher du sable à l'embouchure, elle va le ramener systématiquement devant les plages. Donc on va noter après toutes ces initiatives que le trait de côte va se stabiliser à peu près dans les années 80. Il va quand même reculer, mais bien moins vite qu'avant. Je crois que c'est plus d'une hauteur de 1 mètre par an, alors qu'avant, c'était presque 10 mètres chaque hiver que la plage disparaissait. Et les ingénieurs des ponts et des chaussées vont garder cette habitude de faire du clapage côtier jusqu'au début des années 2000. Et puis au début des années 2000, pour une raison peu justifiée, ça va s'arrêter. Et les plages vont à nouveau se remettre à reculer. Et il va y avoir des épis, notamment Marinella Corsair, qui vont être emportés par les tempêtes parce que le sable n'est plus ramené, il est abandonné au large. Et du coup, la plage se met à nouveau à reculer puisque forcément, on lui rend plus son sable. Et donc c'est comme ça jusqu'au début des années 2010. Et là, en 2010, force de constater ces dégâts. Il y a une convention tripartite qui est mise entre le port, la ville d'Anglette et l'agglo pour qu'à nouveau soit ramené le sable systématiquement. Sauf que c'est compliqué et il faudra attendre l'arrivée de Dragues à demeure, qui est la drague Ondara, pour qu'à nouveau on puisse ramener 100% du sable
sur les plages anglaises. Alors, je voudrais quand même dire que 100% du sable ramené sur la plage, c'est que depuis 2017, parce que même dans les années 80 et 90, les dragues qui venaient à Bayonne n'avaient jamais fait aussi bien. C'était toujours le meilleur des cas, 80-85. Alors que là, aujourd'hui, on a un super outil. Les gars dessus travaillent très bien. Ils ramènent 100% de sable depuis 4 ans. Et vraiment, félicitations.
Alors l'hiver avec la mer qui peut être forcément plus forte, avec des tempêtes, peut-elle être un facteur d'accélérateur de l'érosion ?
Alors l'hiver est un accélérateur d'érosion quand la houle est forte, surtout en anglette. Parce qu'on sait que le sable est mis en suspension quand il y a une certaine force de houle. Le courant côtier ramène les sables fins en suspension jusqu'à l'embouchure. Donc dès qu'il y a de la houle supérieure à 4 mètres, il faut se dire que le sable d'anglette file vers l'embouchure. Les ingénieurs des ponts et chaussées avaient fait une étude dans les années 70 où ils disaient qu'il pouvait y avoir 80 000 mètres cubes de sable qui allaient à l'embouchure en l'espace de 5 à 6 jours. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que si la drague, à chaque fois qu'elle ramène le sable, l'érosion est endiguée. Mais avant, quand on ne faisait pas ça, c'était perdu.
Alors aujourd'hui, donc, quel est le challenge de demain, maintenant que le littoral est stabilisé grâce à la drague Ondara ?
Déjà, tant que Ondara fera 100% de clapage côtier, ou quasiment 100%, on peut dire que le littoral est stabilisé en l'état. Après, c'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, il y a quand même la montée des eaux, qui, elle, continue. Et on n'a plus ce sable qui venait de la côte nord et qui venait faire engraisser la côte. Donc il y a une certaine inquiétude qu'il faut avoir et anticipation. Une première solution, ce serait d'aller chercher tout le sable qu'on a largué au large. Parce qu'en fait, il s'est formé un haut fond à force de lâcher ce sable là-bas à 2-3 km. Et donc, il y a des dragues qui peuvent faire en une ou deux fois venir prendre tout ce sable et le décharger à terre. Alors, forcément, c'est un certain coût, ça demande une période de 100 vagues pour pouvoir le faire, mais c'est pas impossible parce que ça se fait déjà ailleurs. Et c'est vrai qu'on pourrait recharger les plages d'un million ou deux millions de mètres cubes de sable, étant un deux millions, c'est ce qu'on a perdu depuis les années 2000 avant que la drague Ondara arrive. Donc ça, c'est une idée, c'est une option. Bon, c'est compliqué à faire juridiquement, mais c'est une option. Après, cette drague Ondara, elle sera pas tout le temps là, et puis peut-être qu'un jour il y arrivera un pépin, et puis cette drague Ondara, elle brûle du carburant. Donc, ce n'est pas une solution pérenne à terme. Aujourd'hui, on essaye de diminuer nos émissions de carbone. Donc, quelle est la solution ? Je ne sais pas. Moi, je donne un exemple juste comme ça. Partout ailleurs, quand on a fait des ports, on a toujours fait une digue et une contre-digue qui étaient aussi longues. Parce que justement, c'était pour éviter que le sable s'accumule dans les embouchures. À Bayonne, ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un problème de coût. L'État n'avait pas les moyens de payer la deuxième digue. C'est pour ça qu'en fait, elle n'a pas été là et que ça a créé des érosions sur les plages d'Anglette. Mais aujourd'hui, on a une digue des Cavaliers et on a une digue de la Patinoire qui sont là côte à côte. Alors pourquoi pas imaginer en enlever une et rajouter ce qu'on enlève à l'autre pour aller chercher le bout et fermer pour éviter que justement une drague soit tout le temps en train de faire l'aller-retour et qui brûle du carbone pour finalement, c'est le taux de dénayade, c'est-à-dire que tant qu'il y a des sables qui fuiront, il faudra le récupérer pour le ramener. Donc voilà, c'est une chose auquel il faut réfléchir. Je sais que c'était quelque chose qu'avait demandé l'État à la CCI de Bayonne, parce que effectivement, à long terme ou à moyen terme, c'est pas la meilleure solution. Voilà, donc trouver une solution à ce niveau-là et puis étudier la possibilité de ramener ce sable au large qui nous appartient et qui est abandonné pour reconforter nos plages. C'est les deux solutions sur lesquelles on va militer dans les prochaines années. On a beaucoup de gens qui nous suivent sur notre blog SOS Littoral Angoloy ou sur notre page Facebook, et on essaye de donner un maximum d'informations. Donc vous pouvez vous inscrire. Nous, on prend les gens qui s'inscrivent comme étant des adhérents, parce que le fait de suivre, c'est pour nous une façon de montrer aux élus qu'on nous écoute et qu'on nous soutient. Donc si vous adhérez à tout le travail de sauvegarde qu'on essaye de faire pour les plages anglaises, n'hésitez pas à vous inscrire soit sur notre page Facebook ou soit sur notre blog SOS Littoral Angoloy. Merci.
Merci à vous. Je rappelle, nous étions avec Aymeric Bayle, président de l'association SOS Littoral Angloy. Vous nous avez parlé donc du littoral de la côte basque hier, aujourd'hui. Nous avons fait un zoom aussi sur l'histoire du trait de côte sur Anglette. Merci pour vos connaissances, votre partage et bonne continuation à vous.
L'écologie intégrale au cœur du Pays basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.